the carpet.
By it. Into a chair, a bed, or other soft furniture, you sit in it or lie on it and let your body relax so that you are completely supported by it.
Listening to the terrible sounds of squealing and slaughter in the kitchen below, of going down the carpeted stairs to the huge dark world of the deserted dining room, once the patio, sinking into the soft disaster of the carpet, his feet sinking into heartbreak when he reached the stairs, still not sure he wasn't on the landing, and the stab of panic and self-disgust when he thought of the cold shower bath back on the left, used only once before, but was enough.
Money in a product or project. You provide money for it, hoping to get a profit later.
His steps, noiseless, dead silence outside his hotel, too soon for the terrible sounds of squealing and slaughter in the kitchen below. Going down the carpeted stairs to the huge dark well of the deserted dining room once the patio, sinking into the soft disaster of the carpet, his feet sinking into heartbreak when he reached the stairs, still not sure he was upon the landing, and the stab of panic and self-disgust. When he thought of the cold shower bath back on the left, used only once before, but was enough.
Thank you.
reach the stairs, still not sure he was on the landing, and the stab of panic and self-disgust when he thought of the cold shower bath back on the left, used only once before, but was enough. Used only once before, but was enough. Sur sa gauche.
C'est pas.
Une fois. Avant.
Ses propres pas furtifs. Devant la porte de sa chambre.
Ses pas inaudibles. Trop tôt pour les terribles bruits. Aigus.
Le silence.
Ses pas.
Au sortir de sa chambre d'hôtel. À une heure bien trop matinale encore.
Trop tôt pour les horribles sons aigus et massacrants.
À une heure bien trop matinale encore. Trop tôt pour les bruits dans la cuisine en bas.
De la cuisine juste en dessous.
Pour les bruits dans la cuisine en bas.
Descendant les escaliers tapissés de moquettes. À l'entrée.
Descendre.
De la chambre à l'entrée.
Descendre le tapis des marches. Descendre.
De la salle à manger. Désert. À la bord du patio.
La salle à manger, l'ancien patio.
Dans le désastre de cette moquette, ses pieds coulant à l'intérieur de son cœur cassé.
Plongé dans le désastre moelleux de la moquette, s'enfoncer dans le désastre mou du tapis.
Au moment où il atteint les escaliers.
Ses pieds s'enfoncent dans le chagrin. Ses pieds s'enfoncent dans le chagrin.
Et la crise de panique. Désert.
Son pied
à la bord du patio.
Son pied qui manque la première marche. L'incertitude d'être ou de ne plus être sur le palier.
De son cœur cassé, coulant à l'intérieur.
Et l'élancement panique.
Toujours pas certain.
La pensée de la salle de douche, froide, derrière et à gauche. La vision de la douche froide
et la crise de panique
dans le fond à gauche.
Quand il pensa à la douche froide
utilisée en d'autres temps
sur sa gauche
pour une unique et suffisante expérience,
une fois avant,
utilisée en d'autres temps,
toujours pas certain,
utilisée en d'autres temps
qu'il était
pour une unique et suffisante,
toujours pas certain qu'il avait atterri,
utilisée auparavant rien qu'une fois.
Quand il pensa à la douche,
mais
froide, qu'il était toujours pas certain.
Longtemps, pas longtemps. Dans l'étendue qui embrasse l'univers, je me suis mise au lit un peu avant le temps indiqué.
J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller.
В больницу с сотрясением мозга увозят 5 человек. Бастовать мирно сотрудникам французского ГУДЕР надоело. В окна завода и в полицейских полетели булыжники и тухлые яйца. Руководство крупнейшего американского производителя покрышек убедить так и не получилось. Филиал Вамьенор закрывают, 1100 человек уволят. Продажи колес для малолитражек продолжают кризисные пики. Для них это крайняя мера. Законопослушные сотрудники автогиганта проводят на завод по собственным пропускам в обход руководства, отключив камеры наблюдения. Такие выходки по местным меркам – стопроцентное увольнение. Киев. Но шансов не потерять работу у этих людей все равно не осталось. В знак протеста на заводе играют в карты и курят. Такие.
Пусть все стоит брошенным. Мы не собираемся доделывать машины. Только это и пугает нашего босса.
Багеты и чай из пакетиков. Сотрудники Peugeot Citroën в северном пригороде Олне-Субуа игнорируют даже заводскую столовую.
Это тяжелейшая работа. Лично я здесь уже 25 лет. От здоровья ничего не осталось. Куда я пойду? На биржу? Кому я там нужен?
Триста автомобилей до обеда и 400 после, до начала забастовки. На этом заводе выпускали порядка 700 машин ежедневно. Сегодня утром сборочную линию блокировали рабочие. Главный конвейер, вот он, остановлен. Руководство не идет на переговоры. На проходной просто повесили объявление. Предприятия закрывают. За последние два года производство сократилось в три раза. Объем продаж хэтчбеков Citroën C3 – это единственная модель, которую собирают на заводе, снизился на 30%. Этот завод компании просто не нужен. В апреле 2014-го, ровно через год, уволят всех 3000 безработных. Впрочем, еще не предел. Peugeot, затеяв оптимизацию производства, оставит на улице 8000 высококлассных специалистов. Такого во Франции еще никогда не случалось. Еще никогда не случалось.
Longtemps, je me suis couché de bonne heure.
Longtemps, pas longtemps.
Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ».
Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Pendant un long espace de temps, je me suis mise au lit un peu avant le temps indiqué. Pendant un long espace de temps, je me suis mise au lit un peu avant le temps indiqué.
Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesaient comme des écailles sur mes yeux et les empêchaient de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis elles commençaient à me devenir inintelligibles comme après la métempsychose les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi, j'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt je recouvrais la vue et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux. Mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être.
longtemps, durant un certain laps de temps, insuffisamment réduit dans l'étendue qui embrasse l'univers, j'ai attaqué par ma plume la tête d'un silence prescrit comme traitement. La tête d'un silence prescrit comme traitement. Longtemps. De bonne humeur.
Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivaient l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente, et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit. À la douceur prochaine du retour.
Longtemps, durant un certain laps de temps, Monsieur Durand fit son service avec modestie, avec sa retraite. Avec sa retraite à laquelle on ajouta de l'eau, il se mit à choisir son monde. Des immortels susceptibles d'entretien. Il séduisit un écrivain avec le petit bout d'un pain de sucre. Cette réserve profonde lui était imposée par ses appointements.
J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre. Bientôt minuit. C'est l'instant où le malade qui a été obligé de partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel bonheur, c'est déjà le matin. Dans un moment, les domestiques seront levés, il pourra sonner, on viendra lui porter secours. L'espérance d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement, il a cru entendre des pas. Les pas se rapprochent, puis s'éloigne. Et la raie de jour qui était sous sa porte a disparu. C'est minuit. On vient d'éteindre le gaz. Le dernier domestique est parti et il faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède.
Pendant un long espace de temps,
je me rendormais et parfois je n'avais plus que de courts réveils d'un instant. Le temps d'entendre les craquements organiques des boiseries, d'ouvrir les yeux pour fixer le kaléidoscope de l'obscurité, de goûter grâce à une lueur momentanée de conscience le sommeil où étaient plongés les meubles, la chambre. Le tout dont je n'étais qu'une petite partie et à l'insensibilité duquel je retournais vite m'unir. Quelquefois, comme Ève naquit d'une côte d'Adam, une femme naissait pendant mon sommeil d'une fausse position de ma cuisse. Formé du plaisir que j'étais sur le point de goûter, je m'imaginais que c'était elle qui me l'offrait. Mon corps, qui sentait dans le sien ma propre chaleur, voulait s'y rejoindre. Je m'éveillais. Le reste des humains m'apparaissait comme bien lointain auprès de cette femme que j'avais quittée il y avait quelques moments à peine. Ma joue était chaude encore de son baiser, mon corps courbaturé par le poids de sa taille. Si, comme il arrivait quelquefois, elle avait les traits d'une femme que j'avais connue dans la vie, j'allais me donner tout entier à ce but, la retrouver. Comme ceux qui partent en voyage pour voir de leurs yeux une cité désirée.
Laps de temps, plein temps. Fatigué, pas fatigué. Pas le temps, une crevette.
Tu dors, tes yeux se ferment. Tu dors, tu vas dormir. Tu dors.
Peut-être l'immobilité des choses autour de nous leur est-elle imposée par notre certitude que ce sont elles et non pas d'autres, par l'immobilité de notre pensée en face d'elles. Toujours est-il que quand je me réveillais ainsi, mon esprit s'agitant pour chercher, sans y réussir à savoir où j'étais, tout tournait autour de moi dans l'obscurité, les choses, les pays, les années. Mon corps, trop engourdi pour remuer, cherchait, d'après la forme de sa fatigue, à repérer la position de ses membres pour en induire la direction du mur, la place des meubles pour reconstruire et pour nommer la demeure où il se trouvait. Sa mémoire, la mémoire de ses côtés, de ses genoux, de ses épaules, lui présentait successivement plusieurs des chambres où il avait dormi, tandis qu'autour de lui, les murs invisibles, changeant de place selon la forme de la pièce imaginée, tourbillonnaient dans les ténèbres. Et avant même que ma pensée, qui hésitait au seuil des temps et des formes, eût identifié le logis en rapprochant les circonstances, lui, mon corps, se rappelait pour chacun le genre du lit, la place des portes, la prise de jour des fenêtres, l'existence d'un couloir, avec la pensée que j'avais en m'y endormant et que je retrouvais au réveil.
Dans l'étendue qui embrasse l'univers,